Le cinq visages de la malédiction. Je voudrais lire avec vous trois portions des Écritures. Les cinq visages de la malédiction. Nous lisons d'abord Josué chapitre 6, sixième chapitre de Josué. Nous lisons du verset 24 au verset 26. Josué 6, du verset 24 au verset 26. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel l'argent, l'or, tous les objets de rein et de fer. Verset 25. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ces jours parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Et soulignez bien les versets 26. Ce fut alors que Josué, jurant en disant, et soulignez bien ces phrases, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. » Il veut dire, quand il fera la fondation, son fils premier-né ne vivra pas. Et il en posera les portes au prix de son fils plus jeune, son jeune fils. Cette nation a combattu Israël. Ils les ont mis devant une grande pression. Et Josué, après la victoire, fonctionnant comme un prophète, il prononce simplement des paroles. On ne sent même pas qu'il dit « par la grâce de Dieu ». Si Dieu le veut, il déclare, il décrète, il jure, « maudit soit l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette vie. » Il ne cite pas quelqu'un de particulier. Pour être éligible pour cette malédiction, il faut poser ces deux actes. Cet acte plutôt, rebâtir la ville. Et ces deux conséquences vont arriver. Un, quand tu vas faire les fondations, ton fils premier-né va mourir. Si tu en as cinq, c'est l'aîné et les cadets qui subiront. Et quand tu vas finir, quand tu veux placer les portes, ton plus jeune fils va mourir. 1 Roi chapitre 16, verset 34. Dès son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. On avait dit que personne n'aurait bâti ce Jéricho. J'aimerais déjà donner une information. 800 ans après, 800 années après, quelqu'un qui sûrement n'était pas au courant de cette information. Je m'imagine, il a fait de bonnes fois. Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Il commence à faire les fondations. On vient lui dire, Abiram, ton fils, est mort. Bof, ça peut arriver, dit-il. Et quand il termine, il pose les portes. Ségub, son plus jeune fils, meurt. Mais la Bible dit, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils, de nous, 800 années entre la parole et l'accomplissement. Je voudrais lire un dernier passage qui me sert d'introduction. Marc, au chapitre 11, du verset 12 à 14, et puis du verset 20 à 21. Jésus-Christ est en villégiature avec ses disciples et quitte un endroit pour aller vers un autre. Et quelque chose se passe, 12 à 14, et puis 20 à 21. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim, juste un désir. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Et bizarre, la Bible dit, car ce n'était pas la saison des fugues. Quelle est la faute de ces fuguiers? Il a eu un désir. J'aimerais que ces fuguiers me donnent quelque chose pour satisfaire mon besoin. Et dans son irritation, le Seigneur réagit. Verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Toi, production Abuopia. Toi, capacité à produire des fruits, c'est fini. Et j'aime ce que le verset dit en terminant. Et ses disciples l'entendirent. Conséquence que nous retrouvons, verset 20 à 21. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Moins de 24 heures, il avait dit une parole. La Bible dit séchés jusqu'aux racines. En termes d'agronomie, j'ai lu plusieurs livres, on dit c'est un phénomène, si ça devait arriver, que ça puisse sécher jusqu'aux racines, ça devait prendre 6 mois. Mais en moins de 14 heures, un phénomène prend place. Verset 21. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu avais maudit a séché. » Pierre est épaté. Comment des paroles peuvent avoir de l'impact sur une chose matérielle? Comment le seul fait de dire une chose fait que la chose s'accomplisse. Cet après-midi, j'ai une conviction d'être en mission comme jamais. J'ai même comme la certitude que tous les 4 jours passés n'étaient que de l'apéritif, de l'entrée pour un repas. J'ai même comme la certitude que la vraie raison pour laquelle Dieu m'a envoyé, c'est les 60 minutes qui vont suivre. Cet auditoire, je ne sais à combien on est. Mais j'ai prié hier soir et j'ai prié ce matin. Dieu m'a montré les chiffres 7. Il m'a dit, Roland, si ces messages pour tous les hommes et toutes les femmes qui sont ici ne sont que des informations, pour 7 personnes, c'est un tournant. Les anglophones disent un turning point. Dans la vie de 7 personnes, il y aura un avant et un après, oui, de cette parole. Dans la vie de 7 personnes, je ne sais de qui il s'agit. Ils se souviendront de cet après-midi, ils se souviendront de cette soirée. Et Dieu m'a donné une indication, parmi ces 7 personnes, il y a une personne tourmenté par des maux de ventre depuis hier soir, qui aurait voulu même cet après-midi ne pas être là. Tu t'es demandé, vu ces problèmes de digestion que j'ai, dois-je aller ou pas? Et tu as dit, qu'importe, j'ai commencé, je veux venir. Dieu m'a dit de te dire, tu as bien fait de venir. Car le diable a voulu que tu puisses manquer cette occasion. Enfin, que ce cycle négatif qui avait commencé se perpétue. Mais Dieu t'aime tellement qu'il t'a rendu capable de braver cet obstacle. Dans quelques heures, dans quelques minutes, quand Dieu aura agi dans ta vie, tu diras, waouh, ça valait la peine. Je vais parler d'une réalité. Permettez-moi la tautologie me permet de mieux l'exprimer. Une réalité réelle, mais ignorée et négligée. Une réalité réelle qui fait beaucoup de dégâts, qui accompagne plusieurs, qui les fait passer à côté de l'essentiel, mais que l'on néglige, la malédiction. On néglige cette réalité. Pourquoi? Pour certaines raisons que je vais mentionner. 3 principalement. La première, parce qu'on l'ignore. On n'est pas au courant de son existence. On ne la connaît pas. On n'a jamais entendu parler. La deuxième raison pour laquelle on la néglige, on n'y croit pas. On n'y croit pas trop. On n'y croit pas trop parce qu'on est carré, parce qu'on est logique, parce qu'on est cartésien, parce qu'on a été influencé par Descartes. Tout est logique. J'aimerais dire ici, tout n'est pas logique. J'aimerais même aller plus loin. Tout n'est pas explicable par la raison. Certains n'y croient pas par modernisme. J'ai entendu un scientifique dire « Le modernisme commence quand on cesse de croire aux anges et aux démons. » Le modernisme commence quand on cesse de croire à l'enfer et au paradis. Il dit « L'Afrique ne se développe pas parce qu'on est encore dans la préhistoire. » Ah, j'aimerais ici à mettre un point de vue équilibré. C'est vrai, il arrive des fois en Afrique ou ailleurs qu'on est déséquilibré. On voit des démons partout, des esprits partout et même là où ils ne sont pas. J'ai vu un jour chez moi au Congo, pour ceux qui connaissent Kinshasa, au rond-point Gab, embouteillage terrible. Quelqu'un dit esprit d'embouteillage, va-t'en, au nom de Jésus. Non, il n'y a pas un esprit d'embouteillage. Quand cette ville a été bâtie en 55-60, l'idée c'était pour 100 000 habitants, avec des routes appropriées. Plus de 50 ans après, le modernisme et l'urbanisation n'ont pas suivi. Exode rural, il y a plus de 10 millions dans la ville, les mêmes routes, c'est normal qu'il puisse y avoir ces embouteillages. On voit des démons partout. Il y a des enseignements des fois déséquilibrés. Un jour dans mon pays, chez moi à la maison, j'ai eu à héberger une tante. Et le soir, vers 23 heures, un chat était en train de miauler à la fenêtre. Miaou, miaou, au kokangaïté, au kokabisoté. C'est-à-dire, tu ne vas pas nous atteindre. Bon, je ne parle pas les kichas ou les langues des chats. Mais c'était la saison sèche chez nous. Il faisait frais. J'ai pu imaginer dans les langues des chats, les petits chats disaient, il fait froid, il fait froid. Est-ce que je peux trouver un endroit à m'abriter? Oh, kokangaïté, tu ne mourras pas. Prédicateur, tu ne veux pas dire que les esprits peuvent s'incarner dans des animaux? Oui. Mais pas tout animal. Mais en même temps, quelquefois, nous, on est déséquilibrés dans la spiritualité. De l'autre côté aussi, en Occident, on est hyper déséquilibrés. On ne veut pas croire que les démons existent. On ne veut pas croire que les esprits existent. J'ai un homme que j'ai côtoyé, docteur en lettres. Il parle les latins classiques comme vous et moi on parle français, comme moi je parle swahili, tété là et un peu kikongo. Latin classique. Un jour il me disait, Roland, s'il faut croire aux esprits, il faut être bigot, bigot. Chaque fois qu'il utilise un vocabulaire, je dois aller faire un voyage dans les dictionnaires. Bigot. Il ne faut pas croire aux bigoteries. Il m'a un jour enrichi par un vocabulaire. Il dit, Roland, dans l'église, vous avez trop de pudibonderie. J'ai dit, pudibonderie, c'est quoi? Il dit, la pudeur exagérée. J'ai dit, ok, pudibonderie. Vous savez, il y a des gens qui parlent français. Je me souviens lors de la conférence nationale, Monseigneur Monsengo, il a parlé de convergence parallèle. Quand il parle, je dis, convergence? Les parallèles. Les parallèles sont supposés ne pas se rencontrer. Et comment lui parle de convergence? Batamaye les bazar. Les gens intelligents, il y en a. Lors de la conférence nationale, on a découvert encore un politique chez nous, Maître Liao. Quand il s'est levé pour parler, quel français? Il a dit coterie tribale. De telle sorte qu'un jour, j'ai vu même un receveur de bus, il dit entrez vite, il ne faut pas faire de la coterie tribale. Et cet homme hyper intelligent ne croyait pas à ces choses. Jusqu'à ce que l'une de ses nièces, 28 ans révolue, lui a dit, oncle, c'est nous qui faisons tomber tes véhicules en panne. Chaque fois que tu as tel marché pour être consultant, c'est nous qui bloquons ça. Il dit, c'est faux. Et cette jeune dame lui a dit, si tu veux croire que nous fonctionnons, j'aimerais te faire faire un exercice. Cette nuit, dors dans ta chambre, ferme à clé, même à double tour. Et demain, en te réveillant, regarde ta tête. L'homme a dit, ok, j'oublierai jamais. Il m'a appelé vers 6h30. Il dit, Roland, j'arrive pas à expliquer ce qui se passe. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé, c'est un homme qui avait une chevelure touffue. Il y avait un boulevard là. Tout parti. Il dit, on sent que c'est une tondeuse qui est passée. Mais Roland, j'étais, j'avais fermé. Et la jeune dame, il est venu dire, c'est moi qui ai fait ça. Certains n'y croient pas. Mais j'aimerais dire, ce n'est pas parce que vous ne croyez pas que vous subirez moins les dégâts de ces choses. Troisième raison, certains le négligent. Ils savent que ça existe, mais ils prennent ça à la légère. Un peu comme Israël, prêt à rentrer dans la terre promise, et puis on leur dit, il y a une nation, un peuple qui s'appelle Haï. Ils disent, bof, c'est un petit peuple. Ça ne sert à rien de mobiliser toute une armée, négligence. Combien de fois des choses réelles, dangereuses, nous minimisons jusqu'à ce que cette petite nation puisse les battre. Josué prononce une parole et des années après, deux meurent comme il avait dit. Jésus-Christ prononce une parole et un arbre sèche à partir de la racine. J'aimerais à ce niveau nous dire quatre choses concernant la malédiction. La première, c'est que la malédiction est une réalité réelle mais spirituelle. La malédiction est une réalité réelle, mais spirituelle. Les choses spirituelles, comme l'apôtre Paul le dira dans 1 Corinthiens 2,14, c'est spirituellement qu'on en juge. On n'en juge pas par l'intellect. On n'en juge pas, je ne sais, par les diplômes. C'est spirituellement qu'on en juge. Une autre version dit, c'est spirituellement qu'on les appréhende. C'est spirituellement qu'on les comprend. Deuxième chose que j'aimerais dire comme fondement avant de toucher les cinq visages, c'est que le mot malédiction apparaît pour la première fois dans la Bible, dans Genèse 3, versets 14 et 17, et bizarre, c'est Dieu qui en parle. C'est Dieu qui l'utilise. Et quand Dieu utilise ces mots, il connaît les contenus. Avant ces instants, personne n'a parlé de cela. Dieu ouvre la bouche, il dit au serpent, tu seras maudit d'entre tous les animaux. Il aurait pu utiliser un autre vocabulaire. Tu seras maudit. Au verset 17, il parle à l'homme, lui parlant de ce qui arrivera à la terre. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. Tu as écouté la voix de la femme. Que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit. C'est de la bouche de Dieu que ces mots sortent. Troisième chose que j'aimerais dire à ce niveau attaché à la malédiction. Lorsqu'il apparaît pour la première fois dans la Bible, ces mots hébreux, ces mots malédiction dont la racine hébreu est Mera et aussi Karav. Dans sa racine en hébreu, comme je l'ai dit, je pense le premier jour, ça va au-delà du simple souhait. Quand on parle de la malédiction, on parle des condamnations sévères. Ça peut se traduire par imprécation. Ça peut se traduire par serment. Mais quand on essaye d'étudier ces mots, les mots malédiction cachent trois idées. La première idée, ça c'est la notion générale. La première et la deuxième idée, des notions générales. Mais la troisième idée, c'est la notion biblique. La première notion générale de la malédiction c'est simplement l'action de maudire. Bon, vous allez me dire, on n'a pas trop avancé. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est servir des paroles pour appeler les mauvais sorts, pour appeler l'infortune, pour appeler l'absence des réussites dans la vie d'une personne, d'une famille, d'une ville ou d'un pays. Et j'aimerais le répéter. C'est servir des paroles pour appeler les mauvais sorts, l'infortune, l'absence des réussites dans la vie d'une personne, d'une famille, d'une ville ou d'un pays. Et là déjà nous voyons une réalité importante, c'est que la malédiction peut toucher un individu, tout comme ça peut toucher un groupe d'individus. Deuxième définition à caractère général, c'est que la malédiction est un ensemble de procédés magiques ou mystiques qui utilisent des formules à l'encontre d'une personne ou d'un animal dans le but de causer la ruine, la maladie, la mort ou les mauvais sorts. J'aimerais le répéter. Procédés magiques ou mystiques qui utilisent des formules à l'encontre d'une personne et d'un animal dans le but de causer la ruine, la maladie, la mort ou les mauvais sorts. Quand je parle ainsi, je pense à un ami à moi qui est maintenant médecin en Europe. J'ai étudié avec lui depuis l'école primaire. Il était bien jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 10 ans, un garçon brillant à l'école. Il a commencé à se courber, À 13 ans, il est devenu bossu, chose qu'il n'avait pas à la naissance. Et quand il a eu 16, 18 ans, c'est devenu encore plus fort. J'oublierai jamais, pasteur Fidèle, l'année où nous avons eu notre bac, notre diplôme d'État. Il avait 18 ans, j'en avais aussi 18. Juste après qu'on a eu nos diplômes d'État, alors qu'on attendait d'aller à l'université, au mois d'août, son père est décédé. J'ai jamais oublié, toute la famille pleurait. Certains s'est roulé par terre. Je l'ai vu prendre son coca et rigoler aux éclats. Je me souviens l'avoir appelé par son nom. Je lui ai dit, ce que tu fais là n'est pas bien. Le corps de ton père, ton géniteur, est là. Et toi, tu t'amuses carrément. Il dit, Roland, je ne peux pas les pleurer. Si je pouvais prendre un fouet, aller les tabasser, j'allais les faire. Et quand il a ouvert la bouche, il m'a expliqué. Je suis resté, c'est que les anglophones disent, speechless, wordless, bouche bée. Il m'a dit, tu sais quoi, papa était très malade durant 6 mois. C'était 2 jours à la maison, 5 jours à l'hôpital. Mais il dit, les 3 dernières semaines, il est resté totalement alité. Mais tu sais quoi, il est mort hier le soir. Mais il y a 2 jours, il a appelé tous les enfants. Il nous a donné comme un testament des indications. Soyez unis entre vous. Il avait 2 femmes. Ne vous battez pas les enfants de l'un et de l'autre. Et puis après, il a demandé à tout le monde de sortir. Quand tout le monde est sorti, cet ami m'a dit, durant 30 minutes, il pleurait sur son lit. La mort sortait. J'ai senti qu'il voulait dire quelque chose. Il n'arrivait pas à le dire. Et puis à la fin, citant mon nom, ça c'est l'ami qui me dit, j'aimerais te demander pardon. Pardon pourquoi? Ce que tu as derrière le dos, c'est moi qui suis à la base. Il lui a dit, explique-moi. Il lui a dit, tu étais tout petit, tu avais 7 ans. Je suis allé étudier au Japon. Il dit, j'ai fait part d'une secte japonaise, certains peut-être connaissent, ça s'appelle Ayam. Je fais partie de cette secte japonaise appelée Ayam. Et puis, un moment, on m'a dit, tu as une grande étoile, mais pour aller loin, tu dois faire un sacrifice. Mais un sacrifice qui t'écoute. Si tu fais ce sacrifice, tu vas progresser dans la vie à grande vitesse. Il dit, il a hésité, puis il est allé lors de cette cérémonie. Ils disent, on fait des choses comme des cultes vaudou. On lui a donné une statuette. On dit, donne à ces statuettes un des noms de tes enfants, mais celui que tu aimes le plus. Il a donné le nom de mon ami. Et on lui a donné une aiguille. On lui a dit, pique au dos. Et écrit les chiffres 10. Il dit, dès que cet enfant aura l'âge de 10 ans, il commencera à se courber. Mais plus lui va se courber, plus toi tu seras élevé. Qu'il est triste de voir des gens qui sont prêts à tout pour réussir. Prêts à sacrifier des choses. Et quand cet ami me parlait, je voyais comment il tremblait de colère. Il me disait, Roland, tu te souviens comment à l'école, on m'appelait les bossus. Il dit, chaque fois que cette chose a commencé, mon père m'a amené chez le plus grand spécialiste. Kiné, rentré, je ne sais pas moi dans quel appareil. Même en le faisant, il savait que c'est lui qui était à la base. Il dit, quand je pense, quand j'avais 14 et 15 ans, des filles auxquelles je faisais la cour, qui m'injuriaient les bossus, et je courais vers lui pour pleurer, me consoler, et savoir que si je suis devenu bossu, c'est à cause de lui. On peut dire, quelle relation y a-t-il entre une statuette où on a placé une aiguille et un corps? Comment la logique peut expliquer ça? Comment le côté cartésien peut expliquer ça? Malédiction, procédé magique ou mystique qui utilise des formules à l'encontre d'une personne ou d'un animal dans le but de causer la ruine, la maladie ou la mort. Troisième idée cachée derrière la malédiction, et ça c'est ce qui nous intéresse. Procédé spirituellement inexplicable par lequel on revêt quelqu'un. J'insiste sur le terme revêtement. On revêt quelqu'un, pour certaines raisons, d'un vêtement ou d'un habit spirituel qui cause l'échec, le mauvais sort et l'absence de réussite. Et cela de deux manières. La première manière, en l'empêchant d'avoir les biens qui devaient venir. Et la deuxième manière, en ouvrant la porte au malheur qui veut s'inviter. D'un côté, le bien qui veut venir, on lui dit stop. Mais deuxièmement, tout mal qui veut venir, on lui dit welcome. Et sur le plan biblique, et surtout en hébreu, autant la bénédiction a été un revêtement, autant la malédiction aussi c'est un revêtement. Qu'il est triste de voir des gens habillé en costume, trois pièces, bazin cher et lourd. Mais ça, c'est l'habillement physique. Certains ne savent pas au-delà de cet habillement physique. Ils ont un autre habillement spirituel que seul ceux à qui Dieu ouvre les yeux peuvent voir. Vous voyez cette jeune fille mignonne, belle comme Miss Univers. Mais que personne ne voit. Pourquoi? Revêtu d'un habit spirituel. Dans Psaume 109, versets 18 à 19, j'aimerais qu'on lise ce passage. Psaume 109, versets 18 à 19. Écoutez ce que la Bible dit. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. On parle de la malédiction comme un habit, qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os. Voilà ce que la malédiction fait. Et elle ne reste pas épidermique. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Seigneur, je les déclare ce soir, tout celui qui revêt la malédiction comme un vêtement, aujourd'hui nous allons enlever ça. Ce soir, s'il faut prendre la peau et enlever, nous le ferons au nom de Jésus. J'en ai la certitude, les esprits qui sont derrière la malédiction ont deux sentiments. Les premiers, ils sont fâchés. Fâchés contre cette jeune femme, fâchés contre cette jeune fille, fâchés contre cet homme en disant, il n'aurait pas dû venir. J'aimerais dire à Satan, trop tard. Tu aurais dû l'empêcher de venir. Mais comme il est déjà ici, il est dans un territoire conquis. Mais la deuxième que j'aimerais dire, tu n'as pas la capacité d'aller plus loin. Je le dirai à la conclusion. Toute malédiction a une date de péremption. De la même manière, quand il y a un médicament, on dit ce médicament, on peut le prendre d'août 2014, mais dépassé janvier 2016, tu ne peux plus prendre. J'aimerais le déclarer, toute malédiction devant notre Dieu a une date de péremption. Et je suis venu ce soir déclarer comme un prophète, ta malédiction à Bouopia. Date de la péremption inaugurée. Tu vas au supermarché, tu achètes un yaourt. On dit qu'il faut consommer ça du 20 juillet jusqu'au 16 août. Le 16 août, tu ne peux plus consommer ça. Périmé. Ce soir, je suis venu déclarer des malédictions périmées. Je me tiens ainsi comme un prophète. Je déclare les malédictions périmées. Périmé. Verset 19. Qu'elle lui serve de la malédiction. Qu'elle lui serve des vêtements pour se couvrir. Des ceintures dont il soit toujours saint. C'est-à-dire quelque chose qui l'accompagne partout. En tout temps. Comme son ombre. Quatrième chose que je me dirais en posant comme base attachée à la malédiction. La malédiction, comme une maladie, a toujours des symptômes. On peut déterminer, ça c'est la malaria, parce qu'on voit de la fièvre presque chaque fois le soir. On voit des températures qui montent à tel degré. Les médecins peuvent savoir ça. Ce n'est pas la malaria, ça c'est la fièvre typhoïde. Pourquoi? Parce que les températures ne sont jamais en deçà des 39. C'est entre 39 et 40, mais ça s'accompagne des maux de ventre et des diarrhées. Quand ils voient les deux, ils disent, et ça ce n'est pas la malaria, parce que la malaria, il n'y a pas de maux de ventre. Ça, ce sont des symptômes qui montrent que c'est la fièvre typhoïde. Là où il y a la malédiction, il y a des symptômes. On sait voir que ça, ce n'est pas quelque chose d'anormal. J'aimerais déjà à ce niveau ouvrir une parenthèse que je fermerai. J'aimerais dire, tout échec, toute infortune et toute absence de succès n'est pas forcément malédiction. Parce que des fois, comme je dis, nous sommes déséquilibrés. Nous voyons la malédiction partout. Mais j'aimerais dire, là où il y a la malédiction, j'en parlerai en progressant. Il y a des symptômes qui ne manquent jamais. Et l'un des symptômes graves, c'est la répétition. Les mêmes problèmes qui reviennent. Ah, si tu vois des fiançailles commencer à s'arrêter une première fois, bon, tu peux tolérer. Deux fois, tu peux tolérer. Quand ça devient cinq, six fois, ne reste pas trop cartésien. Et surtout quand chaque fois, c'est quasiment la même chose. Je me souviens d'une jeune fille, j'en parlerai en progressant. Elle s'est fiancée, elle s'est rompue toujours une semaine avant la dot. Tout est fait, tout avance, une semaine avant. Elle a dit, c'est quand c'est arrivé la cinquième fois qu'elle se dit, alors je vois les cartésiens, les intelligents, ils diront, ça c'est la coïncidence. Un concours malheureux des événements. Je vis dans des familles, chaque année, entre les 15 et les 20 décembre, un enfant meurt. Coïncidence? Je vis des familles où vous arrivez à 40 ans, vous faites une forme de diabète qui n'a jamais existé. Tant que vous avez 28, 30 ans, vous êtes bien. Les jours où vous fêtez 40 ans, vous soufflez sur 40 bougies. Le lendemain, vous avez des problèmes. C'est arrivé chez mon cousin. C'est arrivé chez l'autre. Alors tu vas me dire encore, c'est une coïncidence. Homme de Dieu, ne spiritualise pas tout. Vous exagérez avec vos histoires. Les deux textes que nous avons lus, comme je l'ai dit, nous montrent premièrement que 8 siècles ont séparé la parole de malédiction et l'accomplissement de la malédiction. Deuxième chose que ce texte nous montre, que la malédiction, on peut l'oublier, mais elle n'oublie pas de faire son travail. Celui qui rebâtira Jéricho paiera les prix par son fils premier-né. Et il en posera les portes par son fils cadet. 8 siècles, les gens ont oublié, mais la malédiction attendait aux aguets. Et ils ont oublié, mais moi je n'ai pas oublié. J'aimerais aller plus loin, ça va peut-être vous choquer. Troisième chose, la malédiction a un côté implacable. La malédiction n'a pas besoin de visa pour venir au Canada. La malédiction traverse les eaux, les océans. Hey, celui qui m'avait maudit habite Ngidinga. Il habite Nchela, Mbatamayang. La malédiction va te suivre ici, malgré le froid. Tu vas à Alberta, la malédiction est un peu en train de grelotter de froid, mais elle te suit. Non, je vais aller à Edmonton, la malédiction clique des dents à cause du froid, mais elle te suit. Elle est implacable. En étudiant la parole de Dieu, on arrive à la conclusion que la malédiction a plusieurs visages. Et ce soir, Dieu m'a mis à cœur de mentionner 5 visages. Et puis nous allons prier. Et puis nous allons nous occuper de Madame la malédiction. Le premier visage de la malédiction, c'est que la malédiction est un mystère. Difficile à comprendre. Difficile à expliquer par la raison. Comme je l'ai dit, qui peut expliquer ce qui se passe dans 1 Roi 16, 34 et qui a sa racine dans Josué 6, 26. Qui peut expliquer Marc 11, 20 à 21 que nous avons lu? Christ regarde le figuier. Il dit que personne ne mange de ton fruit. Qui peut expliquer que le lendemain, quand Pierre regarde, il est étonné. Le figuier a séché jusqu'à la racine. Mystère. J'aime de temps en temps quand l'occidental, malgré son côté réfléchi, commence à se poser des questions. Quand un quatrième du clan Kennedy est mort dans les conditions mystérieuses, et par image, et USA Today, ils ont intitulé « La malédiction du clan Kennedy ». Eux-mêmes, ils ont dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça a commencé par Robert, tué dans des conditions assez difficiles. Et puis il y a eu son frère qui a voulu se présenter, puis il y a eu un troisième. Ils ont commencé à dire, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette famille. J'aimerais nous dire, tout n'est pas lié à la raison. Deuxième visage de la malédiction. La malédiction part des paroles et des pratiques, mais a des répercussions et des conséquences dans le matériel, dans le palpable et dans le visible. Mais le point de départ, c'est des paroles. Le point de départ, ce sont des pratiques. J'ai étudié, pour ceux qui connaissent mon pays, à l'internat au Bas-Congo. Je n'étais pas hypnotisé. Nous jouons au football, la troisième scientifique qui jouait contre la quatrième, et nous avons un jeune homme qui étudiait avec nous, et nous ne savions pas, il était un féticheur. Moi, je faisais partie des remplaçants, je n'ai pas participé à la grande partie de la cérémonie, mais il y a des amis, on a dit on va gagner 3-0, et on marquera entre la 10e et la 25e minute. Et puis on a donné des pièces d'argent à l'époque, c'était les Makuta, qu'il fallait aller jeter dans le poteau des aînés de la quatrième. Mais les aînés de la quatrième, ils avaient des karatékas, des judokas. Ils étaient sortis avec leur kimono, ils étaient derrière. 10e minute, au lieu que nous on marque, on nous a marqué. 18e minute, au lieu qu'on nous marque, eux ils ont marqué. 22e minute, on nous a marqué un troisième but. Je me souviens, c'est ce jeune homme qui était avec. Il avait un air bizarre. Il s'est fâché, il dit quelque chose ne va pas. Et puis, quand il y a eu mi-temps, on est allé, il a dit plusieurs n'ont pas obéi aux principes qui avaient été donnés. Est-ce que ceux qui devaient jeter les pièces les ont jetées? Ils ont dit non. Pourquoi? Ils ont dit les grands frères des quatrièmes, des karatékas, des judokas étaient là derrière. On avait eu peur. Il a dit deux choses. Il dit, je vais arrêter les matchs. Je vais attirer la pluie. Le ciel était clair. Ces jours-là, j'ai failli faire les grands et les petits besoins en une fois. Je me souviens, il a pris deux herbes. Il a serré. Il a prononcé des paroles. Pasteur fidèle, en moins de 3 minutes, ce n'était pas une pluie. Orage. Je regarde, je dis, comment un bout d'homme comme ça peut diriger les ciels en Afrique si toutes ces choses on les utilisait positivement. Et la deuxième, il a dit, vous trois qui devez jeter même sous la pluie, allez jeter, sinon demain vous n'allez pas vous réveiller. Quelqu'un a dit à Lingala, Liwo Yokanguna Sango. Tu entends parler de la mort. Et ces jours-là, j'ai vu que l'instinct de conservation de la vie fonctionne. Sous la pluie, elle est toi. Qui veut mourir? La malédiction part des pratiques et des paroles, mais a des répercussions dans les matériels, les palpables et les visibles. Nous avons lu Marc 11, 20 à 21, cet arbre a séché. C'est pas qu'on est venu mettre un couteau. C'est pas que quelqu'un, je ne sais pas moi, a amené une piqûre avec la cyanure. Une parole que plus personne ne mange de tes fruits. Ça a séché jusqu'aux racines. Quand Pierre arrive, il dit, wow. Ils virent que le figuier avait séché jusqu'aux racines, verset 21. Pierre se rappelant de ce qui avait été dit. Pierre met côte à côte les paroles et la réalité. Et il dit, regarde, le figuier que tu avais maudit a séché. Nombre chapitre 22, verset 6. Israël est en train d'avancer et bientôt ils vont rentrer dans Jéricho. Un roi appelé Balak, il panique, il tremble devant la force des frappes du peuple d'Israël. Il va chercher les concours d'un devin appelé Balaam. Écoutez ce qu'il lui dit. « Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et vais-je les chasser du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. » Balak croit que les paroles d'un homme peuvent avoir de l'impact sur la capacité des militaires à se battre ou à ne pas battre. Ils se sont certes entraînés, ils sont équipés, mais je sais, si toi tu parles, malgré l'entraînement et malgré l'équipement, ils ne sauront rien faire. J'aimerais nous dire, j'ai 27 ans dans le ministère, la malédiction est une réalité. Et j'aimerais les répéter comme une tautologie, une réalité réelle. J'ai tellement vu ça, qu'autant que je vous vois, je trouve que vous êtes réel, vous n'êtes pas virtuel. Autant je peux vous dire, la malédiction, moi, je la considère aussi réelle que je vous vois réelle. Troisième visage de la malédiction. La malédiction a toujours un double but. Elle ne vient jamais pour rien. Elle ne vient jamais pour notre bien, jamais pour notre promotion, jamais pour notre aisance. La malédiction vient toujours pour un double but. Le premier but de la malédiction, c'est la frustration et le découragement. Et le deuxième but de la malédiction, c'est l'anéantissement. J'aimerais le répéter, je prendrai quelques textes tout à l'heure. Quand je parle de la frustration et du découragement, quand la malédiction vient, la malédiction n'arrête pas vos fiançailles au début. Non. Elle vous laisse commencer. Elle vous laisse faire la publicité. Elle vous laisse même fixer la date. Ils vont venir les 13. Et c'est les 12 que tu reçois un coup de fil. Il te parle en bon français, vu que, entendu que, pour des raisons indépendantes de ma très bonne volonté, j'ai l'impression que je ne pourrai plus continuer. Les 12. Alors que depuis les 8, les 9, tu as parlé à tout le monde. Tout le monde va au salon. Tout le monde va chez les tailleurs pour l'habit. Et le 12, la veille du 13, il t'a dit, j'arrête. Ça, c'est le but de la malédiction, nous frustrer, nous décourager. La malédiction, comme je l'ai définie quelquefois, c'était on te fait sucer un bonbon. Je me souviens quand je parle de cela, une jeune fille, j'étais en train de prier pour elle. Je l'ai vue à 4 reprises. On lui faisait sucer un bonbon qu'elle aimait, mais à peine elle suçait, on lui enlevait. Dès qu'elle commence à prendre goût, dès qu'elle commence à aimer, ça s'arrête. La frustration et le découragement. Dans Agée chapitre 1, verset 6, la Bible nous montre l'un des symptômes de la malédiction. Nous relirons encore tout ça tout à l'heure. Il dit, vous sèmez beaucoup et vous recueillez peu. Tu vas dans un champ, tu jettes plusieurs grains, mais tu recueilles très peu. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, mais en retour, peu ou pas de résultats. Deutéronome chapitre 28, verset 30 à 34. Tu auras une fiancée et un autre couchera avec elle. Ça, c'est le signe de la malédiction. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jureras pas. 31. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux. Tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi. On ne te les rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. 32. Les fils, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux les verront et langueront tous les jours après eux, et ta main sera sans force. Verset 33. Un peuple que tu n'auras point connu mangera les fruits de ton sol et tous les produits de ton pays. Et là, je vois un pays que je ne vais pas citer. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Tous les jours. Allons-y même à 34. Les spectacles que tu auras sous tes yeux te jettera dans les délires. Tu seras un spectateur des choses négatives qui arriveront dans ta vie. Allons toujours de Deutéronome 28, versets 38 à 40, et puis les versets 42. Deutéronome 28, 38 à 40, et puis 42. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences, mais tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Beaucoup d'efforts, peu de résultats. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, mais tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. 40. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne trouveras pas d'huile, car tes olives tomberont. Verset 42. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. Beaucoup d'investissements, beaucoup d'efforts, mais pas de résultats. Deutéronome 28, verset 37. Mets en exergue encore un élément. Tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tout le peuple chez qui l'Éternel te mènera. Beaucoup de diplômes, un bachelor degree dans ceci, un autre bachelor dans cela, un master, mais chômeur avec ses majuscules. Quand on entend parler français, on dit, on dirait qu'il mange les dictionnaires au petit déjeuner. Mais boulot zéro. Gardien dans des parkings. Plongeur. Et des fois, des gens qui ont peu de qualifications que toi progressent. Mais au lieu d'avoir les yeux ouverts, tu dis, c'est lié à la situation économique du pays. C'est la grande crise. Toi, tu as toujours une explication rationnelle. Au lieu de chercher Dieu, que c'est triste d'avoir un mari maudit et tellement intelligent, il ne veut pas les reconnaître. Chérie, vous aussi avec vos églises, c'est lié à la grande crise. Attends qu'il y ait la reprise. Attends la reprise. Frustration, découragement. Jérémie 23, verset 10, nous montre qu'à la malédiction s'accompagne le deuil. Qu'il y a des gens qui font deuil et que les gens ne voient pas. Deuil au plus profond. Tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme, de raillerie. Mais là, au plus profond, tu n'as rien. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Là où il y a la malédiction, ce sont des pleurs chaque jour. Deuil. Ah, Dieu sait les larmes qui sont versées derrière ces pédicures et manicures que l'on voit. Dieu sait ce qui se passe dans le cœur de cette jeune fille que vous enviez. Vous la voyez briller. Vous ne savez pas les larmes qu'elle verse en secret. C'est son visage est rempli de sillons, mais les sillons des larmes sont couverts par le maquillage. Première couche, deuxième et troisième couche. Deuil. Mais la malédiction ne vise pas seulement le découragement et la frustration. La malédiction vise comme point final l'anéantissement. Deutéronome 28, verset 20, et puis verset 66 à 67. La Bible parle de tout. L'Éternel enverra contre toi la malédiction. le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Écoutez ce que la Bible dit. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce que tu périsses promptement. C'est ce que la malédiction vise, la destruction complète. Et écoutez ce que le verset que je mentionnais tout à l'heure, 66 à 67, dit. Et je le crois du fond de mon cœur. Quand j'ai noté ce verset, Dieu m'a dit, Roland, dans l'auditoire, il y a quelqu'un qui est en train de vivre ça. 28, 66, 67. Ta vie sera comme en suspense devant toi. Tu trembleras la nuit et les jours, tu douteras de ton existence. Suis-je venu accompagner des gens sur terre ou quoi? Qu'est-ce que les autres font et que moi je ne fais pas pour ne pas avoir des résultats? Cette petite-là qui a avorté, si c'est 6 fois on l'a épousée. Moi, malgré ma virginité, on ne me voit pas. Est-ce que quand on me voit, on voit les jambes d'un joueur de rugby ou quoi? Douter. De telle sorte que tu commences à te regarder devant la glace. Tu dis, finalement, moi, je ressemble à quoi? Une jeune fille, un jour, est venue me voir au bureau. Puis elle s'est levée, elle m'a dit, elle est la pasteur. Quitte que ça, au pola. Il m'a dit, mon la beauté est en train de pourrir ici. Est-ce que les hommes ne voient pas? Et puis elle a mentionné une soeur qui venait de se marier le samedi. Elle dit, pasteur, tu as vu cette soeur qui s'est mariée? Elle marche comme l'auto blindé. Et elle, on la voit. Ta vie sera comme en suspense. Et le verset 67 dit, dans l'effroi qui remplira ton cœur, et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. On ne sait pas les temps que tu aimes. Ça, c'est le but de la malédiction. Mais je suis venu déclarer comme un prophète la date de la péremption de ta malédiction. Si ça touche tout le monde, Dieu m'a parlé de 7 personnes pour qui plus rien ne sera comme avant. Non pas à cause de moi, mais à cause de celui qui est mort sur la croix. Non pas à cause de moi, mais à cause de celui qui a porté nos péchés. La Bible dit, il s'est fait malédiction afin que nous ayons la bénédiction. Ma Bible a moi dit, le châtiment qui est tombé sur lui, c'est ça qui nous libère. S'il n'était pas ressuscité, tu peux te décourager. Mais ma Bible dit, il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Si tu crois en cela, aide-moi à dire Amen. Quatrième et avant-dernier visage de la malédiction a toujours une cause. La malédiction a toujours, toujours, toujours une cause. Proverbe 26, verset 2, les sages parlant sous l'inspiration de Dieu dira ceci, comme l'oiseau s'échappe et comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction qui manque un fondement n'a pas d'effet. Mais si la malédiction trouve un fondement, ça va frapper. Et parmi les causes qui accompagnent la malédiction, il y a des causes attachées à nous-mêmes. Des choses que nous avons eues à faire. Mais quelquefois, il y a des malédictions attachées aux gens avec qui nous sommes connectés. Parents, faites attention aux choses que vous faites. Il y a des choses que les parents peuvent faire et ça se répercute même sur leurs enfants. Il y a des choses que les mamans font, ça se répercute sur leurs enfants. Je suis allé une fois prêcher à Goma en 2001. Et j'ai vu une dame qui avait 2 enfants. L'aîné avait l'âge de 15 ans, mais dès qu'il a eu l'âge de 10 ans, crise de folie. La deuxième, une fille, petite à l'époque, 18 ans, crise de folie encore. J'aime quand Dieu intervient. Mon pasteur me disait ceci, en termes des choses que les gens ont eu à faire, il y a des choses que les gens aiment dire. Ils vous le diront facilement, pasteur, priez pour moi. Je suis colérique, je suis négligent. Il y a des choses que les gens aiment dire. Mais là, deuxièmement, il y a des choses que les gens peuvent dire. Regarde le degré de confiance, ta capacité à garder les secrets. Pasteur, je suis déjà tombé avec la petite sœur de ma femme. Ben, ce n'est pas grave, ça peut arriver, Dieu pardonne. Ah, ce n'est pas grave. Ok. À part elle, je suis aussi tombé avec l'autre petite sœur. Il y a des choses que les gens peuvent dire. Mais troisième chose, il m'a dit, il y a des choses que les gens ne diront jamais. Que des gens qui se sont décidés, ça, je descendrai avec. Mais ce que j'aime, c'est que le Dieu de la Bible, il est capable de voir une fourmi noire assise sur un rocher noir et dans la nuit la plus sombre. Ces jours-là, alors qu'on est en train de vouloir prier pour la folie, prier pour mes enfants, j'arrive pas à expliquer comment ces crises de folie arrivent. Ah, quelqu'un qui était avec nous dans le groupe a été saisi par Dieu. Il a dit à cette maman, je vois une scène. Je vois en 1999, ceux qui connaissent Goma, je te vois à Birere. Il a donné l'adresse, il a donné le numéro. Il dit, tu as eu 3 rendez-vous et il a donné les dates. Il dit, au troisième rendez-vous, le but c'était quoi? Vous avez commencé timidement avec votre mari et votre mari a commencé à avoir beaucoup d'argent et vous avez senti qu'il a commencé à vous glisser entre les mains. Et les amis vous ont proposé, vous avez la possibilité de les maîtriser. Et on est allé te montrer un homme, on dit, lui, un coup, une flamme. Il ne revient pas 2 fois. Et cette personne qui était avec nous a vu, il dit, on t'a donné rendez-vous en disant, soit à tel endroit, pour ceux qui connaissent Goma, rond-point BDGL, soit là la nuit à 0h. Mais à 0h05, tu verras un lion venir par la route qui vient de Gissing. Ne fuis pas. Si tu bloques ces lions, ton mari deviendra comme un chat milou. Tu commenceras désormais à les tirer, tu dis allez. Mais toi là, je vais m'asseoir, il est fera. Surtout chez nous en Afrique, quand les maris deviennent volages, les femmes sont quelquefois prêtes à tout. C'est quand on parlait comme ça, cette femme tremblait. Et elle a dit, personne au monde ne connaît. J'aime ce que l'ami qui était là a dit, mais Dieu connaît. Et tu as saisi ces lions. Et depuis lors, ton mari, tu les maîtrises. Mais ce que tu ne savais pas, derrière ces contrats, il y avait le futur de tes enfants. N'est-ce pas qu'on t'avait demandé 2 poules blanches? Elle dit oui. N'est-ce pas que quand on a fait les sacrifices, ces poules blanches n'ont pas été tuées. Et ce jeune homme a dit, il dit, je voyais une dame lancer comme des flèches spirituelles, comme ça. Et ces poules ont commencé à... Et c'est de là que ça vient. Tu peux oublier la cause, mais le fait ne t'oublie pas. La malédiction a toujours, toujours, toujours une cause. J'aimerais rapidement, c'est un enseignement qui demandera un séminaire, plusieurs jours. Mais je vais y aller simplement en passant. La pratique de fausses religions est une porte ouverte. Pour les malédictions. J'ai prié un jour pour un homme. Vous savez, le ministère pastoral nous ouvre les portes. Il m'a dit qu'il a fait partie d'un groupe qu'on appelait, j'espère que je vais bien prononcer, Chovu, Chovu Chisanto. 3e évangile. Ceux qui sont de l'Est, un jour j'ai prié pour une dame. Elle m'a parlé d'un groupe mystique qui se trouve vers Maniema. Il y a une pratique qu'on appelle Kimbrikit. Un petit groupe de gens sont initiés. et pratique de fausses religions et de l'idolâtrie. Pratique de la magie, de la sorcellerie, surtout avec les sacrifices du sang humain. Porte ouverte à la malédiction. Les pratiques sexuelles illicites, l'inceste. Et là, c'est surtout des jeunes. Dans les quartiers où j'ai passé le plus des années, j'ai vu des jeunes gens de l'IPN avoir comme principe les cousines sont faites pour les cousins. Inceste. Vous les laissez à la maison, vous ne savez pas ce qui se passe. Des tantes qui initient des petits garçons de 10-15 ans à la sexualité parce qu'ils sont en manque. Porte ouverte pour la malédiction. Le voyeurisme, surtout conscient. Des jeunes gens qui commencent à grandir, papa ou maman est en train de se laver. Et des fois, ils sont même en train de se disputer les spectacles. Yo, taliming. Toi, tu as beaucoup regardé déjà. Vos yeux se plaisent, mais votre avenir est banni. Et surtout, vous, les mamans modernes, tu es dans la salle de bain, tu appelles ta petite fille de 8 ans. Annie, Yaroni Kanga. Viens m'aider à enlever la poussière de maman. La Bible parle, un enfant n'a pas le droit. Mais j'ai toujours un autre point et que je vais illustrer. Quand j'ai prié, Dieu m'a dit, Roland, là où tu vas enseigner, il y a quelqu'un qui est dans ces cas. Les vols. Déplacer le bien de quelqu'un d'autre. Et surtout si cette personne est mal intentionnée. Tu as habité avec cette cousine, tu ne sais pas qu'elle est dans la magie. Tu as envié ses bijoux. À son insu, tu viens. Qui a pris ça? Problème réglé, elle ne va plus demander. Mais tu ne sais pas. Et des fois, derrière la chose perdue, il y a des paroles qui sont prononcées. Que celui qui a pris mes bijoux, qu'il remet. S'il ne remet pas, et ton cœur bat la chamade. Quand tu volais, tu pensais que c'était un jeu. Mais maintenant, pour remettre, tu es lié par la honte. Mieux vaut la honte d'aller remettre que tout ce qui va te suivre dans la vie. J'ai prié avec un groupe des gens qui faisaient partie chez nous de l'équipe de comptage. Il y a une jeune fille, 6 fiançailles, présentation, mais chaque fois, à un mois de la dot, ça vole en éclats. Et le jour où on était en train de prier, quelqu'un qui était avec nous, saisi par l'esprit, il dit, je te vois dans une chambre d'hôtel au Gabon, avec un homme que tu as rencontré alors que tu étais allé en voyage d'affaires. Et puis vous êtes allé ensemble 2 fois. Mais tu te rends compte, chaque fois que vous étiez ensemble, il ouvrait une mallette diplomatique, il y avait beaucoup d'argent. Tu ne connaissais pas les codes. Et tu as placé comme un appareil qui a pris une photo quand il faisait les codes. Le lendemain, il est sorti. Tu es revenu, tu as ouvert. Et il lui a donné le montant. Tu as pris 12 000 dollars. Et il ne s'est pas rendu compte le même jour. C'est 3 jours après, il devait faire une affaire à la banque. Il est revenu, il dit, j'ai l'impression que quelqu'un avait ouvert. Et il dit, tu t'es même fâché. Et vous savez, les femmes, quand elles sont fautives, hein, elles font usage d'une arme non conventionnelle. Les larmes. Oh, non, tu me soupçonnes. L'homme qui avait raison a commencé même à demander pardon. Mais même quand il demandait pardon, l'homme lui a dit, tu savais que tu avais volé. Il dit, parce qu'avant que vous ne puissiez vous quitter, il a dit, la personne qui a pris ça ne sait pas ce que je pratique. Plus rien ne réussira dans sa vie. La jeune fille dit, je fais une prière. Est-ce qu'on peut faire des prières? Seigneur, quel Seigneur? Jésus? Ou Seigneur Taboulay? Seigneur Rochero. Seigneur, j'ai honte de remettre, mais ne permets pas que ça arrive. Fausse prière inefficace qui ne marchera jamais. Et quand cette parole est sortie, cette jeune fille a commencé à trembler, elle a dit, tout est vrai. Et quand j'ai préparé ce message, Dieu m'a dit, il y a une jeune fille ici, tu as fait ça à un homme, tu as pris des choses. Ne quitte pas ces lieux ce soir. Qu'il y a des gens qui se trimballent avec des secrets d'État. Ils sont comme les officiers nazis de la Gestapo. Même sous la torture, ils ne parleront jamais. Nous allons lire ce texte qui m'a étonné, qui m'a glacé. Genèse chapitre 30. Verset 31 jusqu'au verset 32 d'abord. Et nous verrons cette chose étrange qui s'est passée. Et puis nous lirons le verset 34. À 37. Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je te garderai. Je vais essayer de me rassurer que c'est le bon passage. J'ai dit, Genèse combien? Pardonnez-moi, 31. Partant du verset 30 jusqu'au verset 32. Laban dit, maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, il parle à Jacob qui a fui. Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Laban s'est rendu compte que Jacob est parti, mais ses dieux ne sont pas là, c'est teraphim. J'ai des statuettes que j'ai. J'ai des choses qui m'aident à rentrer en contact avec des esprits. Tu es parti, c'est ton droit. Mais j'ai l'impression que tu as volé ça. Qui a pris mes dieux? Verset 31. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Verset 32. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. C'est Jacob qui dit, périsse celui auprès de qui tu trouveras tes dieux. Jacob est sûr, moi je n'ai pas pris. Et regarde Rachel, regarde Léa et dit, mes femmes elles sont honnêtes. Je ne pense pas que l'une d'elles a touché à ces choses. Mais écoutez ce que les versets 34 et 37 disent. Rachel avait pris les teraphimes et les avait mis sous les bas du chameau. Et s'était assise dessus. C'est elle qui avait volé. Pourquoi on ne sait pas? Son mari est un croyant. Pourquoi elle fait ces choses? Laban fouilla toute la tente et ne trouvant rien. Écoutez le verset 35. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis m'élever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Elle veut dire, j'ai mes règles. Pourquoi elle les a cachées en bas? Et Laban dit, je veux fouiller partout, lève-toi. Non, papa, tu es quand même mon père. Je suis dans la période d'indisponibilité. J'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Laban chercha partout et ne trouva point. Verset 36. Jacob s'irrita et querella Laban. Il prit la parole et lui dit, « Quel est mon crime et quel est mon péché que tu me poursuives avec tant d'ardeur ?»« Jacob, tu es en train de te défendre, mais tu es un coupable dans ton équipe. » Fâché contre Laban, pourquoi tu peux nous fuir comme ça ? Moins de trois mois après, quelque chose est arrivé. Genèse 35, verset 16 à 19. Ce n'est pas Léa qui n'avait pas pris qui a été touchée. Écoutez ce que la Bible dit. Ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Éphrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Verset 17. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Verset 18. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appelant Benjamin. Elle meurt. Papa est parti, s'imaginant que personne n'a pris. Mais la fautive est restée silencieuse au moment de donner la vie. Les paroles prononcées l'ont suivi. Que meure la personne chez qui tu trouveras tes dieux. Que rien ne marche, parole simplement. Comment ces paroles peuvent avoir de l'impact au moment de la délivrance? Malédiction attachée à des causes. Mais il y a aussi une autre cause de malédiction, l'infidélité conjugale. Tu trompes ton mari. Tu trompes ta femme et tu ne demandes pas pardon. Et nous allons lire un texte étonnant de quelque chose qui s'est passé en Israël. La première fois que j'ai lu ce texte, j'ai tremblé. J'ai dit, le Dieu d'Israël était terrible avec son peuple. Terrible avec son peuple. Qu'est-ce que la Bible explique et démontre? Tout. Pasteur Thierry, j'ai prié, Dieu m'a montré que tu avais des flammes de feu dans la bouche. Il m'a dit, Roland, tu vas simplement introduire la réunion, mais pour tout le reste, je ferai des choses. Par l'homme de Dieu, j'accomplirai des choses par sa bouche. Je vais délivrer par les paroles qui sortiront de sa bouche, et je ferai beaucoup de bien à ces peuples en ces jours. Et comme je l'ai dit, je voudrais te prier de te préparer, parce que moi je veux jeter l'essence et toi tu vas allumer l'allumette. Et j'ai confiance que la main de Dieu est avec toi. J'ai lisé ce passage, j'espère que je pourrai le retrouver, qui m'a glacé. En Israël, quand une femme trompait son mari, la Bible montre qu'on l'a menée devant les souverains sacrificateurs. On lui posait la question, as-tu trompé ton mari? Si elle disait non, elle avait dit on lui faisait boire un liquide. Et si jamais elle avait trompé son mari, la Bible dit, ses couilles allaient sécher. Et son ventre allait gonfler. Dans certaines de nos tribus, ce sont des choses qui se passent. Mais la Bible en parle déjà. J'espère que je vais retrouver les passages. Mais j'aimerais aller plus loin. Pour toucher un aspect, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est aussi une cause de malédiction. L'infidélité dans les dîmes.